Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 8 mai 2023, en direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer, les titres. Le patron des affaires humanitaires de l'ONU discute de l'accès de l'aide au Soudan avec des émissaires des belligérants. Le bilan des inondations dans l'est de la RDC dépasse les 300 morts. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko dit qu'il ne répondra plus aux convocations des juges. Ici, aux États-Unis, le président Joe Biden lance un nouvel appel pour l'interdiction des fusils d'assaut après une énième tuerie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Concernant la crise soudanaise, le patron des affaires humanitaires de l'ONU discutait dimanche en Arabie Saoudite du passage de l'aide avec des émissaires de l'armée et des paramilitaires qui négocient une trêve après plus de 3 semaines de combats meurtriers. Le point avec Gabi Dorsil.
Le responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, a rejoint les négociations dimanche à Jeddah après avoir appelé mercredi au Soudan les deux généraux à prendre des engagements spécifiques à laisser entrer l'aide humanitaire et sortir les civils pris sous les feux croisés. Alors qu'Américains et Saoudiens assurent que les belligérants négocient une trêve en Arabie Saoudite, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide FSR du général rival Mohamed Hamdan Dagalo ne disent rien des discussions entre leurs émissaires. La délégation de l'armée ne parlera que de la trêve et de comment la mettre correctement en œuvre pour faciliter les accès humanitaires, s'est borné à commenter le général Nabil Abdallah, porte-parole de l'armée. Les FSR n'ont, elles, rien dévoilé sur cette nouvelle médiation après plusieurs cessez-le-feu brisés dans les secondes suivant leur annonce. De leur côté, Riyad et Washington saluent l'ouverture d'un dialogue et exhortent les belligérants à s'impliquer activement, mais n'ont annoncé ni le début formel des pourparlers, ni leur teneur. La guerre a fait 700 morts, 5000 blessés et plus de 300 000 déplacés, selon un bilan officiel.
Un ancien gendarme rwandais, Philippe Atege Kimana, naturalisé français en 2005 sous le nom de Philippe Magnier, comparé à partir de mercredi devant la cour d'assises de Paris pour génocide, crimes contre l'humanité et participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes. Ancien adjudant-chef à la gendarmerie de Nyanza dans la préfecture de Butare dans le sud du Rwanda, Philippe Atege Kimana, 66 ans, est soupçonné des meurtres de dizaines de Tutsis, dont le maire de Ntiazo, Narcisse Nyagasaka, qui résistait à l'exécution du génocide dans sa commune. Selon l'accusation, Philippe Magnier, qui conteste les faits, est aussi suspecté d'avoir ordonné l'érection de barrages routiers destinés à contrôler et à assassiner les civils Tutsis. Le procès est prévu jusqu'au 30 juin. Les inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies jeudi dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont fait au moins 394 morts, dont les corps ont été retrouvés selon un nouveau bilan communiqué hier. Le point avec Rosine Munezero.
L'administrateur du territoire Bokaléé, dans lequel se trouvent les villages sinistrés, avait fait état samedi d'au moins 203 morts. Depuis jeudi, on retrouve des corps à chaque minute et on les enterre, a-t-il ajouté. Plusieurs villages ont été submergés, de nombreuses maisons emportées, des champs dévastés, quand les rivières sont sorties de leur lit sous l'effet de pluies diluviennes. Cette catastrophe est survenue 2 jours après des inondations qui ont fait au moins 131 morts et détruit des milliers de maisons au Rwanda voisin. À l'issue du Conseil des ministres de vendredi, Kinshasa a annoncé l'envoi d'une mission gouvernementale pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Il a décrété une journée de deuil national lundi. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné samedi, lors d'une visite au Burundi, qu'il s'agissait d'une nouvelle illustration d'une accélération du changement climatique et de ses conséquences dramatiques pour des pays qui ne sont pas en cause dans le réchauffement mondial de la planète.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a déclaré hier qu'il ne répondrait plus aux convocations des juges sans garantie pour sa sécurité, la veille d'un procès en appel dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle. Monsieur Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de 2024, a invoqué les incidents auxquels ont donné lieu ses déplacements au tribunal. On n'a jamais vu dans le monde entier un citoyen convoqué au tribunal et qui s'y rend faire l'objet d'autant d'acharnement, d'autant de brutalité et de tentatives presque de liquidation physique, a-t-il dit dans une déclaration sur les réseaux sociaux. Monsieur Sonko a maille à partir avec la justice depuis 2 ans et le dépôt d'une plainte contre lui pour viol. Il clame son innocence et crie au complot du président Macky Sall pour l'écarter de la présidentielle. Le procès en appel de lundi porte sur sa condamnation suite à la plainte du ministre du Tourisme, Mambai Niang, pour diffamation, injure et faux. Au Burkina Faso, des milliers de manifestants favorables au régime en place se sont regroupés samedi dans les grandes villes pour dénoncer des velléités de déstabilisation de leur pays, dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré et en proie à la violence djihadiste. Jacques Aristide.
À Ouagadougou, le grand marché restait fermé. Des manifestants ont brûlé un drapeau français et celui de l'Union européenne, sous les applaudissements de nombreux badauds qui criaient leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022. Nous sommes sortis pour soutenir la transition et rejeter l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires du Burkina, a déclaré Sadou Compaoré, un acteur de la société civile à Burkinabé. Jeudi, lors d'un entretien télévisé, le capitaine Traoré a dénoncé les agissements d'une coalition contre le Burkina. Ils sont nombreux ces pays qui ont refusé catégoriquement de nous vendre de l'équipement, a-t-il dit, affirmant s'être tourné vers des alliés stratégiques comme la Russie et la Turquie après avoir demandé le départ de l'armée française. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger quelques années auparavant.
7 soldats nigériens ont été tués dimanche par l'explosion de leur véhicule sur une mine dans la région de Tillaberi, dans l'ouest, où sévissent régulièrement des groupes djihadistes, a annoncé la garde nationale du Niger. Un véhicule de la mission d'escorte de ravitaillement hebdomadaire a sauté sur une mine en fin de matinée à environ 6 km du village de Samira, dans le département de Gotei, près de la frontière avec le Burkina Faso, indique un communiqué de la gendarmerie rattachée au ministère de l'Intérieur et en pointe dans la lutte anti-djihadiste. Le village de Samira abrite depuis 2004 la seule mine d'or industrielle du Niger.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a de nouveau exhorté dimanche le Congrès à interdire les fusils d'assaut après qu'un tireur a tué 8 personnes, dont des enfants, dans un centre commercial au Texas. M. Biden a dénoncé un acte insensé de violence dans un communiqué et ordonné la mise en berne des drapeaux au-dessus de la Maison-Blanche et des bâtiments publics fédéraux et militaires en hommage aux victimes. Mais son appel a peu de chances d'aboutir car les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants sont farouchement opposés à de telles mesures. Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés, 49 000 en 2021 contre 45 000 en 2020. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réintégré dimanche dans la Ligue arabe le régime syrien, écarté en 2011 après la répression d'un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre dévastatrice. Cette décision survient sur fond de réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et alors que le président syrien Bachar al-Assad a cruellement besoin d'investissements pour l'énorme chantier de la reconstruction dans son pays. M. Assad est récemment sorti de son statut de persona non grata, profitant notamment d'un élan de solidarité mondiale en février, après un séisme qui a dévasté des vastes régions syriennes ainsi que la Turquie. Le président chinois Xi Jinping tiendra la semaine prochaine en Chine un sommet inédit avec les dirigeants de 5 anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale au moment où Pékin renforce son empreinte dans cette région historiquement sous influence russe. Le sommet Chine-Asie centrale, le premier de la sorte, réunira les dirigeants du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan. La Minute Éco, Nanit Talani.
En RDC, le litre d'essence coûte 6 000 francs congolais à la pompe et 6 500 francs congolais chez les revendeurs à Mbujimayi, dans le Kasaï oriental, depuis le début du mois, alors qu'il était vendu à 5 000 francs congolais auparavant. Les habitants se plaignent de cette augmentation qui entraîne celle des transports, rapportent nos confrères de la radio Okapi. Les importateurs de produits pétroliers accusent le mauvais état des routes et le manque de locomotives et des chemins de fer congolais d'être à la base de cette situation. Le gouvernement togolais ambitionne de construire un barrage polyvalent à Sarakawa, dans la région de l'Akara, au nord du pays, indique le ministère en charge de l'eau. Ce projet, estimé à environ 78 milliards de francs CFA, fournira de l'électricité et de l'eau potable aux populations locales et permettra de mobiliser l'eau pour les activités agropastorales, indique Togo First. Pour terminer, les acteurs du secteur du textile du Bénin ont participé à l'atelier pour explorer les alternatives visant à stimuler le secteur. Pour la BAD, qui a financé l'atelier, c'est une étape pour aider les PME béninoises à se structurer et à mettre en commun leurs efforts pour accompagner la dynamique mise en place par les autorités en faveur du développement de l'industrie textile par le biais de la confection locale en série, pour la transformation de l'agriculture et le développement industriel du pays.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Élisée Ompatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On débute par le cyclisme avec l'épilogue du Tour du Bénin.
Oui, et c'est le Marocain Achraf Ed Dogmi qui s'offre le maillot jaune de cette 18e édition devant l'Algérien Yassine Hamza. Le Camerounais Kamzong Abosolo termine à la 3e place. Le Bénin, 6e par équipe, s'est illustré grâce à Ricardo Soudjeri, 10e au classement général. Une première pour le cyclisme béninois, sur ce tour qui a changé de dimension depuis l'année dernière. Son entraîneur, Fernand Ganaro, se réjouit de ce progrès.
Basketball à présent, on connaît les qualifiés de la conférence Nil pour la phase finale de la Basketball Africa League qui aura lieu à Kigali au Rwanda.
Et sans surprise, on aura Petro de Luanda qui termine d'ailleurs en tête après avoir battu 90-91 à la Ligue du Caire qualifié aussi. Les Mozambicains de Ferroviaro Beira ont également validé leur ticket, tout comme les Tigers d'Afrique du Sud suite à leur victoire 80-70 sur les Ougandais de City Oilers. La phase finale de cette balle débute le 21 mai prochain.
On reste en Égypte où se jouait hier la finale de la Supercoupe d'Afrique des clubs de handball.
Tout à fait, et chez les dames, c'est le Petro de Luanda qui est sacré après avoir battu le Primeiro do Agosto 29-26. Au niveau des hommes, le duel 100% égyptien a tourné à l'avantage d'Al-Ali, victorieux des Amalek 27-24.
On enchaîne maintenant avec du football et le tirage au sort de la CAN des moins de 23 ans au Maroc.
Les 8 équipes concernées sont reparties dans 2 groupes de 4. Le pays hôte est logé dans la poule A en compagnie du Ghana, du Congo et de la Guinée. La poule B regroupe l'Égypte, le Mali, le Gabon et le Niger. La compétition, qui sera à sa 4e édition, se jouera du 24 juin à la mi-juillet et qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Football toujours, suite de la CAN des moins de 17 ans en Algérie.
Oui, et fait hier des matchs de poule. Le Burkina Faso a validé le dernier billet pour les quarts de finale. Succès 2-1 contre le Cameroun. Les étalons cadets se frotteront jeudi au Nigeria. Pour les autres affiches, on aura Sénégal, Afrique du Sud, Mali, Congo et le très attendu Maroc-Algérie.
Merci, Élisée.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les autorités ont annoncé la tenue du référendum sur la nouvelle constitution pour le 18 juin. Cette information suscite beaucoup d'interrogations au sein de la population sur le caractère inclusif du processus. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
En annonçant dans un flash spécial la tenue du référendum sur la nouvelle constitution le 18 juin prochain, le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, était loin de se douter que cela allait susciter beaucoup de questions. Pour Ousmane Morba, il s'agit de l'urgence de cette annonce.
L'annonce de la tenue du référendum pour le 18 du mois de juin, ça a surpris tout le monde. Parce que nous, en réalité, moi, je ne m'attendais pas à cela. Un beau matin, entre 9h et 10h, un flash spécial sur leur thème, on informe le peuple. Et avant, on avait rien appris par rapport à cela.
Nde Umbotimbi s'intéresse aux conditions pour la bonne tenue de ce référendum.
Le référendum, c'était initialement prévu pour le mois de mars. Et ils ont évoqué des raisons, ça n'a pas payé et ça n'a pas eu lieu. Et maintenant, de mars à maintenant, on dit que la date a été fixée pour juin. Moi, maintenant, je ne sais pas. Moi, mon écrit, c'est sur quelle base les gens vont voter. Est-ce que c'est la carte biométrique? Est-ce que c'est la carte NINA ou est-ce que c'est la carte d'identité nationale? C'est ça le problème. Enfin, le problème, les conditions n'étaient pas réunies en mars. Maintenant, de mars à maintenant, ça veut dire est-ce qu'ils ont pu corriger les tares qu'ils avaient évoquées?
Président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, pour Boubacar Bokoum, compte tenu du caractère inclusif du processus d'élaboration de la nouvelle constitution, cette information ne devrait pas surprendre.
Nous avons été associés à l'ensemble du processus. Nous avons fait des propositions, certaines ont été retenues, certaines n'ont pas été acceptées. Donc nous pensons déjà que c'était une démarche qui, effectivement, était plus ou moins dans une forme inclusive.
Le souci d'autres Maliens est le caractère inclusif du processus quand on sait que la distribution de la carte biométrique, qui est la carte d'électeur, est en cours. Alou Badra Doumbia, journaliste.
Vous savez que je n'ai pas eu ma carte, je n'ai pas encore retiré ma carte, c'est pas sorti. Je suis allé à maintes reprises, je peux dire trois fois, on m'a dit que ce n'était pas encore sorti. Donc nous, on a été enroulé en dernier, je lui ai dit, donc notre carte, c'est pas sûr que ça va sortir maintenant. C'est pas sûr que nous puissions voter, il faut se dire la vérité. Hein.
La campagne s'ouvre le 2 juin, les militaires voteront par anticipation le 11 juin. Avant le référendum qui doit se tenir le 18 juin. Ce sera la première étape d'un calendrier pour le retour des civils au pouvoir en 2024. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Gabon, coup d'envoi ce mardi de l'opération de révision des listes électorales, une campagne prévue pour durer 30 jours pour permettre l'enrôlement de près de 80 000 nouveaux électeurs. Le ministère de l'Intérieur déploie près de 1500 agents pour les opérations. Les partis politiques sont en ordre de bataille pour des élections dont les dates ne sont pas encore annoncées. Un reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obianze.
C'est nos branle-bas avant l'heure dans les écuries politiques. Candidat à la candidature de l'opposition à la prochaine présidentielle, le professeur Albert Ondossa vient d'initier une levée de fonds pour financer la campagne de son camp politique. Un appel à souscription coordonné par Daphne Nyongi Mingegus.
La souscription, c'est participer au financement à la campagne électorale de août 2021, voilà, de l'opposition. Il n'est pas encore candidat au Conseil à Borsan, il n'a pas fait la rébarque. Il est candidat à la candidature. Il n'est pas encore candidat, il espère qu'avec ses frères, ils vont se mettre ensemble. Et pourquoi pas le choisir, on ne sait pas.
une souscription financière parmi les initiatives de l'opposition gabonaise. Face à elle, le parti majoritaire aussi prépare l'enrôlement de ses militants. Jimmy Ninko, membre du bureau fédéral du Parti démocratique gabonais, dans le deuxième arrondissement de Libreville.
La fédération Nzala ne pourra pas rester inerte. Face à cette démarche, s'est réunie ce soir avec les différents camarades pour sensibiliser et susciter la masse et à susciter la masse à s'inscrire massivement sur les différentes listes électorales.
Les opérations de révision des listes électorales démarrent ce mardi pour une période de 30 jours. L'opposition redoute une organisation biaisée car le calendrier des consultations politiques n'est toujours pas disponible. Jean-François Ndomobiaz, président de la plateforme Alternance 2023.
Tous les partis devraient s'organiser en fonction de cette date. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas aujourd'hui toutes les modalités qui nous permettent de comprendre comment nous irons aux élections. Nous n'avons rien qui puisse garantir à une élection sereine.
Aboutir à une élection sereine, un vœu partagé par le gouvernement. Le ministre gabonais de l'Intérieur l'a affirmé devant les médias. Lambert Noël Mata.
Nous disons haut et fort que notre pays dispose depuis 2013 d'une liste électorale fiable et qui est permanente. C'est pour ça que nous avons pensé, aux assises récentes, que nous pouvions réduire la période de révision à 30 jours.
Encore un peu de patience pour les électeurs et les candidats. Les dates de la présidentielle, législative et des locales sont du ressort du Centre gabonais des élections. Selon les autorités, le CGE ne pourra communiquer qu'à la fin de cette opération de révision des listes électorales. Libreville, Ismaël Obiorosé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La pierre sacrée qui fait l'objet de pèlerinages au Togo depuis plus de 350 ans s'est installée au Bénin. Elle est apparue mystérieusement à l'actuel chef des cultes endogènes au Bénin, après des récriminations et un conflit interreligieux évité de justesse, l'authenticité de la pierre est acquise. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur a Dandé.
Après plusieurs années d'incertitude et de critiques, la divinité Ata Apissou a été présentée à la face du monde pour fêter les critiques qui suivaient à Delancy. Apissou Tshidagba, la chef suprême du culte vaudou, depuis qu'elle a déclaré être en possession de cette pierre sacrée. Mais si la pierre sacrée se trouve en terre béninoise, quelle est celle qui se trouve au Togo, plus précisément à Gledjé? Pour Anouagbo, vice-président de la confrérie des lignées ancestrales, le Togo n'a plus en sa possession la pierre sacrée depuis une vingtaine d'années.
La pièce sacrée authentique de la divinité Ata Apissou n'existe plus au Togo. Le dignitaire togolais répondant au nom de Aïsaka l'a vendue aux Américains il y a de cela une vingtaine d'années. Malgré la vente de la pierre authentique, un pèlerinage continue toujours à Gledjé et ils y ont fêté la 359e édition en 2022. Mais il s'agit de pèlerinages qui se déroulent à Gledjé au Togo depuis près de 20 ans et il faut le préciser sans la pierre sacrée authentique de la divinité Ata Apissou.
À Delancy, Apissou Tshidagba, c'est là que la pierre sacrée est apparue à plusieurs reprises avant qu'elle n'y accorde une importance, se dit sereine. Pour elle, c'est le symbole que des jours meilleurs s'annoncent pour le Bénin qui a décidé de faire la promotion de ses valeurs culturelles et en 12 ans. Pour elle, la présence de cette pierre dans son temple rend davantage sacré son site où toute personne peut passer faire des demandes des prières avec la certitude qu'elle se réalise. Célébrée au Ghana puis au Togo, la pierre sacrée a choisi le Bénin. Aujourd'hui, même s'il reste au sein du monde culturel quelques poches de résistance, les voix togolaises les plus autorisées ont entamé au début du mois des négociations pour une éventuelle collaboration. Maciel Agoliagou est journaliste et membre au palais de la chef suprême des cultes endogènes.
Des tentatives de vol ont été enregistrées. On a même payé le prix et présenté au procureur de la République au Bénin. Mieux, la toute dernière réunion qui a eu lieu à Gledjé le lundi 9 avril dernier sous l'égide du roi de Gledjé a permis de lever définitivement le doute. Les dignitaires togolais savent très bien qu'un jour, la pièce sacrée quittera également le Togo pour une troisième destination qui sera cette fois-ci définitive. L'être humain ne peut commander le vaudou. C'est la divinité qui commande. Atapesu a fait son choix. C'est le Bénin. Nous, en tant qu'humains, ne pouvons rien faire.
Merci, Ginette Fleur-Abendé. Des Britanniques se sont retrouvés hier dimanche pour un grand déjeuner afin de fêter le couronnement de Charles III, mais aussi pour le plaisir de passer un moment ensemble. Environ 67 000 grands déjeuners et fêtes de voisinage ont été organisés dans tout le Royaume-Uni. Pour en savoir davantage sur la perception générale de la population britannique à l'égard du règne du nouveau monarque, Eric Manirakidza a joint à Londres Kovilen Narsingen, juriste et citoyen britannique.
Je pense qu'il y a une certaine sorte d'unanimité dans le public britannique qui ont accueilli le couronnement de Charles comme roi. Et donc il y a beaucoup de gens, par exemple dans ma région, dans là où j'habite, il y a eu une petite fête juste après la couronnement, justement, couronnement. Et donc il y avait un street party, comme on appelle, et c'était hier que ça a débuté, les street parties dans beaucoup de régions, si vous voulez, en Angleterre, et ça continue aujourd'hui. Donc les gens ont vraiment accueilli ce nouveau roi, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un couronnement. Le dernier couronnement, ça relève à 70 ans de cela. Et donc, même les enfants, et avec la ville nationale, à l'école et tout, donc c'est la célébration dans le public entier, si vous voulez, britannique.
Et comment le règne de Charles III pourrait-il différer de celui de sa mère, la reine Elisabeth II?
Bon, écoutez, la reine, c'était quand même, il a marqué son empreinte d'une façon très positive, si vous voulez. Et c'était, elle était, si vous voulez, dans le cœur de beaucoup de gens, beaucoup plus. Et même après sa mort, vous avez vu cet élan de, si vous voulez, des gens qui étaient vraiment tristes, bien sûr. Maintenant, pour répondre à votre question, comment il va régner, s'il va régner comme sa mère, je ne le pense pas. Et je pense que beaucoup de gens ne le pensent pas aussi. Parce que c'était dans une ère complètement différente. Mais aujourd'hui, si vous voulez, Charles, il a beaucoup des épines, si vous voulez, qu'il traîne. Il a même le grand conflit avec son fils. Il y a aussi le fait que la reine, aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas vraiment accepté par le public. On pense qu'il aura du pain sur la planche, il aura beaucoup de peine à vraiment rentrer dans le cœur et pouvoir régner d'une façon qu'il va montrer cette différence de ce que Elisabeth, la reine Elisabeth a fait comme pendant son règne.
Vous venez de soulever certains défis particuliers. Mais qu'est-ce que les citoyens britanniques attendent justement du nouveau roi?
C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus, d'ailleurs, il y a l'Angleterre est en train de passer par une crise économique sans précédent. Quand je dis sans précédent, mais il y a beaucoup des années de cela que l'Angleterre n'est pas passée par une crise économique comme cela, à cette échelle. Et une montée d'inflation qui est incroyable. Donc c'est vraiment difficile de faire comme dans le passé, si vous voulez, parce que la situation économique ne le permet pas. Et comment il va faire la différence? Ben là, ça va être vraiment difficile pour lui de le faire, de faire sa différence.
Covilhain Narsingen, juriste et citoyen britannique, joint à Londres. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Firmin Kouyaweda, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée, allez.